Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Encore une très chaude aujourd'hui. J'imagine que si vous travaillez à l'extérieur, ben là, c'est le temps d'aller chercher de l'eau pour être sûr et certain de se réhydrater parce qu'elle n'a pas été facile pour vous autres. Et pour ceux qui travaillent à l'intérieur puis qui ont sorti pour aller jusqu'à leur voiture ou encore prendre le transport en commun, vous avez ressenti ce que les travailleurs ont ressenti à l'extérieur pendant quelques minutes. On lâche pas. Demain soir, je pense qu'on devrait revenir à la normale là, pour ce qui est des températures. Un genre de 44 aujourd'hui à Québec comme température ressentie. Ça n'a pas été facile, les amis. J'ai eu une pensée pour vous autres. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu dans l'émission du midi. Là, c'est le podcast de ce soir. Entre 18h et 19h, comme à chaque soir, j'ai le plaisir de vous présenter un invité. C'est une petite nouvelle qu'on accueille ce soir. Elle se nomme Isabelle Lefebvre. Elle est coach et elle est aussi auteur. On a le plaisir de lui jaser. Madame Isabelle, bonjour!
Bonjour, bonjour Thomas, ça va bien?
Ben oui, ça va bien, ça va bien. Merci d'être avec nous pour ce type d'émission-là. Je ne sais pas si c'est le type d'émission que vous faites régulièrement.
Écoute, moi, je suis ouverte à toutes les opportunités, toutes les possibilités, fait que ça me fait plaisir d'être là. Cette forme-là, c'est la première fois.
Ben ouais. Comment on devient coach? D'où vient Isabelle Lefebvre?
Ben, Isabelle Lefebvre a toujours été dans le coaching d'une façon ou d'une autre parce que je suis une ancienne athlète en basketball au départ, donc j'ai passé mon adolescence dans les gyms. Ouais. Et naturellement, ça m'a amené à coacher. Et puis, tout a commencé là, je dirais. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait ma maîtrise. Justement, j'étais à Québec pendant 5 ans, à l'Université Laval. J'ai fait mon bac, ma maîtrise en kinésiologie, donc ouais. J'ai coaché des gens au niveau vraiment plus sportif, puis avec une spécialité, je dirais, qui sort de l'ordinaire, parce que j'étais vraiment spécialisée au niveau de la réadaptation cardiaque, donc après un infarctus, après des pontages, après une transplantation cardiaque, donc j'entraînais les gens. Donc, c'est ma première carrière, était là, 15 ans dans le réseau de la santé. Alors, ça s'est fait tout naturellement pour moi, le coaching. Et puis, j'ai une fibre entrepreneuriale très forte aussi. Puis, à un moment donné, j'ai vu d'autres opportunités. Je voulais grandir. Je suis toujours un mindset d'athlète. Je pratique peut-être plus le basket comme dans le temps, mais j'ai gardé le mindset d'athlète. Puis, ça a fait en sorte que j'ai comme fait, OK, c'est quoi le next step? Et puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai bifurqué vers le coaching de vie, puis le coaching d'affaires et finalement coaching de gestion. Donc, ça a donné lieu à une nouvelle carrière qui a pris forme. Et puis, depuis ce temps-là, tout est en pleine expansion.
Oui. Puis, si c'était à refaire, est-ce que tu referais le même chemin, Isabelle?
Oui, ça se peut que vous entendiez des petits cris en arrière. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai un bébé chien. Je ferais exactement le même parcours. Puis ouais. À l'époque, il faut dire que ça n'existait pas. Hein? Le coaching n'existait pas. Donc, j'avais aucune idée que je ferais une carrière de cette nature-là avant que apparaisse Internet et les réseaux sociaux. Là.
OK. Puis, est-ce que, je veux dire, tu as été athlète pendant des années. Est-ce que ton désir puis ton choix de carrière, tu l'as un peu décidé à partir du moment où tu transmettais ta passion en tant qu'entraîneur? Parce que souvent, tu sais, moi, j'ai été enseignant au Collège Radio-Télévision de Québec. J'ai été étudiant au Collège Radio-Télévision de Québec. Par la suite, je suis allé sur le marché du travail. Une fois que j'ai acquéri l'expérience, je suis revenu comme professeur. Puis de transmettre ma passion, Isabelle, ça a été comme, OK, c'est une révélation. J'aime beaucoup transmettre ma passion puis enseigner à des jeunes. Puis des fois, voir le résultat après, que ces jeunes-là puissent avoir une carrière comme celle qu'ils espéraient. Est-ce que toi, c'est un peu ça, transmettre ta passion à tes athlètes étudiants?
Bien, au secondaire, je te dirais que oui, là, j'en mangeais du basket, là. Je veux dire, j'aurais couché dans le gym si j'avais pu, là. Fait que c'est vraiment, je connaissais pas d'autre chose que le sport. En même temps, il m'est quand même arrivé un grave accident de parcours, je dirais. Donc, puis ça a été le point tournant. Pas dans mon choix d'université parce que je me disais, c'est sûr que je voulais être physiothérapeute au départ, puis c'était trop contingenté, j'étais sur le bord, j'ai pas rentré. Fait que là, ils m'ont suggéré activité physique à l'époque. Finalement, j'ai comme fait, OK, je m'en vais là-dedans. De toute façon, c'est la seule passion que j'ai. Fait que je vais aller là, puis j'ai une passion pour la santé. Fait que j'ai grandi dans le magasin de produits naturels de ma mère. Donc, j'ai toujours été sur le côté très santé aussi. Fait que mon choix a été naturellement vers là, sans savoir ce que je ferais avec ça. Parce qu'à l'époque, on disait, on sait pas trop ce que vous allez faire. Mais bon, j'avais pas d'autre passion, je vais là-dedans. Mais pour revenir à l'événement qui a changé ma vie, c'est que je suis tombée gravement malade à l'âge de 18 ans. Et je suis passée de jouer au basket à arrêter de jouer au basket, puis à me faire dire, ben là, tu as un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie invalidante qui fait dégénérer les articulations. Puis j'avais 18 ans à l'époque, j'ai été en crise pendant une couple d'années, puis à 21 ans, on m'a dit, ben là, c'est pas compliqué, on sait plus quoi faire, c'est la chaise roulante qui s'en vient. Il n'y a plus d'autres options, ouais. Fait que là, tu sais, quand tu commences ta vie d'adulte, tu sais, j'étais à Québec justement à ce moment-là, j'étais dans mon cours de kinésiologue, tu sais, c'est... La vie a basculé grandement, puis tout mon parcours universitaire, je l'ai fait en étant malade. Et donc, il y a eu bien des séquelles suite à cette maladie-là, parce que c'est ce que ça cause. Ça cause de la dégénération des articulations. Ça amène des limitations physiques. Donc ça, c'est venu vraiment teinter, ça a été la toile de fond sur laquelle finalement j'ai commencé la vie d'adulte. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que je suis encore contente, c'est d'avoir joué au basket, parce que le mindset d'athlète, c'est ce qui a sauvé toute la suite. Si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais cru que je pouvais guérir, je me serais pas guérie.
Ouais.
Je serais assis dans la chaise roulante aujourd'hui, alors que je suis en pleine expansion dans ma vie, ou est-ce que, c'est ça, l'arthrite a eu le temps de faire ses ravages, c'est sûr. Mais, voilà, 2 ans, j'ai eu une hanche neuve. Parce que suite à 3 grossesses, 3 bébés, à un moment donné, le corps, il y a des bouts qui a de la misère. Fait que j'ai une hanche qui a dégénéré, puis pas mal attribuable aux grossesses. J'ai une hanche neuve et depuis 2 ans, tout est en train de, tu sais, ma vie est en train de repartir physiquement. J'ai recommencé à faire du vélo, là, quelques semaines. Écoute, je l'avais pas fait depuis l'âge de 17 ans.
C'est une belle histoire parce que je trouve ça intéressant.
C'est ça. J'ai recommencé à aller au gym, là, 2 mois.
Ouais.
Puis. J'allais plus au gym depuis des années parce que je voyais pas comment j'allais faire pour faire quoi que ce soit.
Ouais.
La maladie, ben c'est ça. Le médecin, il dit que c'est inactif. Moi, je dis que je l'ai guéri, là, parce que justement, j'ai fait énormément de travail sur moi. J'ai changé énormément de choses. Je suis allée faire la paix avec bien des événements du passé. Parce qu'on s'entend, quand la médecine traditionnelle nous dit « il traite juste la chaise roulante », ben tu te dis « ok, je fais quoi ?» Moi, j'ai grandi dans les médecines alternatives, mais moi, je prends toujours le meilleur de ce que tout le monde a à m'offrir. Donc, j'ai toujours allié les deux types de médecine. Je suis toujours allée partout, ce que j'ai ouvert toutes les portes possibles. Puis, j'ai toujours comme fait mon plan, entre guillemets, de guérison pour dire, OK, c'est quoi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, au final, ben oui, je suis arrivée à un stade où est-ce qu'il n'y a plus de dégénération dans mes articulations, sauf que les dommages qui ont été faits sont quand même là, puis je dois vivre avec. Donc, pour moi, recommencer le gym, du vélo, c'est comme monter l'Everest pour quelqu'un d'autre, OK? C'est comme l'ultime but atteint, là. Et puis là, c'est comme chaque nouvelle activité que j'ai envie d'essayer, je suis comme, OK, what's next? J'ai hâte. C'est sûr qu'il y a toujours des risques d'embarquer dans ces aventures-là, tu sais. Je fais ma prière avant de faire du vélo parce que j'ai toujours peur de tomber en bas. Qui m'arrive de quoi, mais il reste que c'est ça. Tu sais, mon plus jeune garçon, j'ai 3 enfants, mon plus jeune a 11 ans, puis là, il commence à faire du vélo avec moi, puis il dit « Maman, t'as jamais vu sur un vélo? » J'ai dit « Je le sais! » J'ai dit « C'était pas possible! » Fait que là, lui, il découvre que sa mère peut faire du vélo à 11 ans, puis là, samedi passé, c'est lui qui était brûlé, puis là, j'étais comme « T'es sûr, un petit chat, on est capable encore! » Il dit « Ah! » Il dit « Man, t'es pas tuable, là! » Il dit « Moi, je suis brûlé, toi, ouais. Tu vas encore! »
Ben, toi, t'es en train de revivre au travers de tout ça,
ouais,
parce que pendant des années, t'as été un peu hypothéqué.
Oui, oui, puis moi, mon slogan, c'est « Plus je vieillis, plus je rajeunis! » Fait que...
Ah, c'est bon. On va essayer de le garder, celui-là. Je vais essayer de le retenir, du moins, ce slogan-là ou cette citation-là. Isabelle, est-ce que tu penses... je veux dire, on est des coachs... je suis un coach de salon, là, je suis dans les estrades, puis je regarde ton parcours, puis je me pose certaines questions. Est-ce que tu penses que tu serais devenue la personne que tu es là actuellement si la maladie n'était pas arrivée dans ta vie?
Non.
Est-ce que tu serais aussi accompli aujourd'hui que si la maladie n'était pas arrivée dans ta vie?
Non, non. Si tu savais le nombre de fois que j'ai voulu y passer, puis me pitcher en bas du pont pour finir cela, là. C'est extrêmement souffrant, de un, cette maladie-là. Je la souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est des crises de douleur 24 heures sur 24, là, quand on est là-dedans. Là.
Ouais.
Puis il reste qu'il y a des douleurs à tous les jours qui sont là, mais bon, moi, je vis tellement avec. Tu sais, t'embarquerais dans mon corps, puis tu dirais, je sais pas comment faire pour toffer, même pas 30 secondes. Mais le seuil de douleur devient tellement élevé qu'à un moment donné, on vit avec ça. Fait que ce que ça l'a fait, ben ça m'a permis, je dirais, de devenir une meilleure personne. J'étais beaucoup plus avant dans de la colère, dans de l'impulsivité, mais dans plein en combat avec des événements difficiles de ma vie. Puis, fait que j'étais comme plus le résultat de ça que le résultat d'être vraiment qui je suis. Puis, la maladie m'a amené à me dépasser à tous les niveaux. Puis, je m'étais dit à un moment donné, ben, peu importe, là, ça finira comme ça finira. Si jamais je suis assise dans une chaise roulante, m'a tellement rayonné qu'on la verra même pas, la chaise roulante. Tu sais, je m'étais mis dans la tête d'être rendue jusque-là. Puis, ça a fait en sorte que ça m'a amené à changer de trajectoire plusieurs fois, de vivre de multiples transformations. Puis, tout ce que je fais en coaching, je suis toujours le cobaye de tout ce que je fais. Donc, tout ce que j'offre comme service, c'est parce que je suis passée dedans avant, puis que j'ai tout vécu ce que j'avais à vivre, puis qu'après ça, j'ai vu que c'était applicable, puis donc, je l'ai amené dans mon entreprise. Mais c'est vraiment de la transformation, puis du travail sur soi. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais c'est devenir la meilleure version de soi-même. Puis tu sais, les gens, souvent, quand on parle de transformation, ils ont peur de devenir quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, on est conditionné par l'extérieur, on est conditionné par les événements de la vie, par les traumas de l'enfance. Puis l'idée, c'est quoi? C'est de revenir à qui on est vraiment.
Ouais.
Donc, tu sais, puis moi, je reviens aussi loin, là, tu sais, que la première seconde sur la Terre, là, puis je me dis, tu sais, à cet instant-là, où est-ce que on arrive sur la Terre puis on est pur là, tu sais, on n'a aucun conditionnement de la société, on n'a aucune fausse croyance qui est passée, on n'a rien. Mais cet instant-là, c'est vraiment l'instant où on est dans notre plus grande lumière, notre plus grand potentiel là, tu sais. Puis après ça, on se fait conditionner par plein de choses, on vit des expériences, on déduit que tu sais finalement la vie va peut-être être difficile, la façon que les gens nous parlent de la vie, tu sais, travailler fort, faut faire des efforts, on se le fait dire pas mal quand on est jeune, alors que la vie peut tellement être plus facile. Donc finalement, on passe notre vie à se déconditionner de tout ça pour revenir à notre version vraiment originale. Puis ben c'est ce que la maladie m'a amené à faire à partir de, je dirais, tu sais, mon premier livre, c'est pas pour rien, ça s'appelle 100% aligné, 100% soumis, c'est parce que j'étais désalignée complètement là, j'étais, tu sais, 500% désalignée, je dirais. Puis j'ai fait le parcours jusqu'à réussir à me revenir sur moi-même, puis sur qui je suis vraiment, puis trouver cet alignement-là avec moi, puis vraiment m'assumer complètement dans qui je suis.
Ah, je trouve ça
Puis ouais,
intéressant ton
c'est
parcours.
la
Puis...
quête en arrière, je te dirais,
Ouais.
du coaching. Fait que, tu sais, je reviens à ta question tantôt. C'est pas nécessairement une transmission de passion, tu sais, comme tu disais. Pour moi, c'était comme, je peux-tu faire en sorte que les gens souffrent pas comme j'ai souffert? Tu sais, on peut-tu, comme, starter notre vie 100% alignée en partant? Puis c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. J'ai voulu être la gardienne, tu sais, de l'alignement pour eux. Puis dire, ben, je vous fais passer dans le chemin de la vie, là, mais de façon le plus alignée possible. Puis je vais tout faire pour que vous puissiez garder cet alignement-là, puis votre lumière, puis être vraiment qui vous êtes, puis apporter, tu sais, votre couleur unique au monde. Et pas avoir besoin de souffrir à l'infini pour finalement faire le parcours que j'ai fait. T'sais, c'est un parcours de combattant, vraiment, là.
Oui, mais
Fait
en
que.
même temps, il y a des gens qui vont trouver des parallèles avec leur propre vie. Puis je prends exemple sur une discussion que j'ai eue avec un de mes chums il y a 3 semaines. T'sais, jamais que ce gars-là me demande d'aller le voir chez eux. T'sais, quand on se voit dans des parties et tout ça. Puis on se jasait sur Messenger. Puis là, je sentais qu'il allait pas super bien. Et je dis, Martin, t'es-tu correct? Veux-tu aller te voir? Parce que je sentais qu'il y avait de quoi qui se passait. J'étais allé le voir, puis il me racontait une partie de l'histoire qu'il avait vécue dans les derniers mois que je n'étais pas au courant. Puis il y avait une difficulté, puis à chaque matin où il se levait, il m'a dit, tu sais, Yann, à chaque matin où je me levais, j'étais fâché après la vie, en me disant, Colin, j'ai encore une autre journée de plus à souffrir. Tu sais, cette personne-là, si elle t'entend ce soir, elle va se dire, OK, ben je suis pas le seul à avoir passé par des épisodes épouvantables de la vie, puis il y a un après aussi. Il y a une version peut-être de la vie que je vais aimer un peu plus dans les. Souvent, c'est des passages qui sont extrêmement difficiles, mais ça fait en sorte qu'après ça, si tu t'en sors, tu vas te souvenir de ce qui s'est passé. Tu vas dire, OK, ben la vie peut être belle comparativement à ce que j'ai vécu. Mais toi, tu me parles de souffrance extrême. Tu sais, moi, je veux pas juger de sa souffrance à lui. Je la connais, il me l'a expliqué. Mais s'il t'entend ce soir, il va se dire, OK, ça se peut que dans 5 ans, là, je repense à cet épisode-là de ma vie, puis que je me rende compte à quel point je suis heureux aujourd'hui. Puis je pense que les gens vont se reconnaître dans ce que tu mentionnes.
Ben ouais, puis on peut pas comparer d'une souffrance à l'autre, puis tu sais, la
Exact.
souffrance, ça peut être physique, ça peut être émotionnelle, ça peut être psychologique, tu sais, on n'a pas. Mais l'idée, c'est que je pense que si on pouvait ne pas avoir à vivre ça pour comprendre des choses, ça serait déjà bien. Puis tout le monde s'en porterait mieux, tu sais. Bon, on est dans un monde où est-ce que oui, ça existe. Maintenant, comment on peut travailler sur nous pour être le plus possible en paix? Puis je te dirais, tu sais, on a de plus en plus de tempêtes et des fois de petites tornades, mais comment, tu sais, on a dans la vraie vie, mais comment on peut en avoir dans nos vies, tu sais, il y en a des, on va en avoir des défis, fait qu'il va en avoir des tornades, mais comment on peut rester au centre de cette tornade-là, peu importe les événements de la vie, puis, tu sais, trouver vraiment une zone de paix, puis une zone où est-ce qu'on va rester zen à travers tout ça, puis de voir, OK, on a les outils pour s'en sortir, passer au travers, tu sais, mais c'est là que le mindset fait la différence, tu sais, vraiment.
Ouais. Puis au travers de ça, tu es auteur, tu as écrit des livres. Il y a un livre, moi, que je trouve franchement intéressant, c'est « Transformer votre relation avec l'argent ».
Ah oui!
Ça existe-tu des mauvaises relations avec l'argent?
Eh, si tu savais, ça existe beaucoup! Moi, sans avoir fait d'études là-dessus, là, mais je te dirais que la majorité des gens n'ont pas une bonne relation avec l'argent.
OK.
Puis encore pire les femmes, OK?
Oh!
Je vais guesser que les hommes ont une meilleure relation.
Ouais. Ça dépend. Moi, quand je... Parce que moi, des fois, je peux tomber en amour. Hein. Je peux tomber en amour très rapidement. Puis cette semaine, je suis allé essayer un véhicule. Je l'ai d'ailleurs encore ici à la station, là. Un Corvette. C'est la première fois de ma vie que j'embarquais dans une Corvette. Puis je suis tombé en amour, je peux te le dire. Je pensais pas aimer ça autant, me promener en Corvette. Quand j'étais jeune, je regardais les messieurs en Corvette, puis on disait grosse Corvette, petite quéquette.
Rappelle, moi aussi.
Puis je riais de ça, mais quand je t'ai embarqué dedans hier, je peux te dire que je disais, OK, ben c'est ça l'amour finalement. Puis là, je regardais le prix. Tu comprends que c'est pas nécessairement dans les prix que j'aimerais payer, mais c'est si j'avais l'argent. Ou si j'étais un peu plus lousse financièrement, Isabelle peut te dire que j'y penserais même pas, j'achèterais ça sans aucun problème, en sachant très bien que je peux pas rouler ça l'hiver. Là.
Non, c'est ça.
On prend un autre véhicule l'hiver, mais je penserais même pas à l'hiver. Je penserais juste à l'été, je penserais juste à la Corvette, je penserais juste à la décapotable, puis je partirais. Mais oui, j'ai une relation particulière aussi avec l'argent, surtout quand je tombe en amour. On dirait que je réfléchis plus, Isabelle.
Ah ben c'est ça, ça peut coûter cher l'amour. Fait sous toutes ses formes.
Exact.
Mais tu sais que ça, il existe, bon, moi j'appelle ça dans mon langage les archétypes financiers,
oui.
Mais ce sont des personnalités financières, il y en a 8. Puis, c'est ce que tu me parles, ça fait écho à certaines personnalités financières qui, justement, vont être plus dans le moment présent, qu'ils penseront pas à demain, puis là, ils tombent en amour avec quelque chose, tout de suite, ils passent à l'action.
Ouais.
Ça, je te dis que ça fait un méga trou dans le portefeuille, tu sais.
Ben, c'est parce que, tu sais, toute ma vie, en fait, depuis que je suis jeune, puis on est à peu près du même âge, Isabelle, là, depuis que je suis jeune, on m'a toujours dit « Essaye de t'en garder un peu de côté pour plus tard. Essaye de t'en garder un peu de côté pour plus tard. » Puis là, ben, plus on vieillit, là, je suis dans la quarantaine actuellement, là, plus on vieillit, plus on voit qu'il y a des gens qui ont travaillé extrêmement fort toute leur vie, qui peuvent mourir jeunes. Qui peuvent mourir à 45, 50, 60.
Mm-hmm.
Fait que je me dis, OK, faut que j'essaie de trouver un juste milieu entre vivre, apprécier la vie, faire des activités qui coûtent parfois un peu cher, comme des voyages, exemple. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est si je passe 65 ans, il va falloir que je continue à vivre aussi. Fait que c'est d'essayer de trouver le juste milieu, des fois, qui n'est pas toujours évident pour moi. Là. Je ne sais pas tes clients, comment ils sont, mais moi, c'est de trouver le juste milieu, surtout quand j'arrive dans la quarantaine, où je m'aperçois qu'il y a des gens qui meurent très jeunes. Je me dis, ils n'auront pas bénéficié de tout l'argent qu'ils ont accumulé pendant des années, ça finit là, puis cet argent-là ira à quelqu'un d'autre, tout simplement.
Effectivement. Puis ça dépend vraiment justement de nos personnalités financières parce qu'il y en a que ils vont voir, tu sais, l'important pour eux autres, ceux qui sont plus insécures financièrement, ils verront pas nécessairement le moment présent puis ils vont être juste focusés sur, tu sais, c'est comme des écureuils, là, fait qu'ils vont tout mettre de côté le plus qu'ils peuvent. Puis eux risquent de mourir, malheureusement, même s'ils meurent à 90 ans sans avoir vécu pleinement leur vie. Tu sais, il y en a qui ont 75 ans, qui travaillent encore, pour en mettre de côté au cas où que. OK, fait que c'est de l'insécurité qui va avoir été la toile de fond de leur vie, fait qu'ils n'auront jamais profité de la vie. Fait que oui, il faut trouver le juste milieu, mais moi, je pense que l'important dans tout ça, c'est de se sentir en paix à toutes les tranches d'âge, tu sais. Et quand on se sent en paix, ben si on part, on part dans un matin, ben la paix, on part avec, là, tu sais. Fait que ça a duré 20 ans ou 40 ans ou 60 ans, la paix, ben on va avoir fait ce qu'on avait à faire, puis on va se sentir bien là-dedans, puis ça va être mission accomplie à la fin, là. Fait que c'est pas tant ce qu'on va acheter ou ce qu'on va vivre que comment qu'on va se sentir qui va faire la différence.
Hein. Et dans ton livre « Transformer votre relation avec l'argent », est-ce que tu dis aux gens de pas se marier?
Non. As-tu lu le chapitre sur le couple? Ah, le mariage, ça peut coûter cher ou pas, ça dépend.
Est-ce qu'on s'enrichit avec un mariage?
Ça dépend. Ça dépend toujours des personnalités financières des deux. T'sais, quand ce sont les deux qui sont du profil accumulateur, donc écureuil, fait qu'ils accumulent l'argent, ils accumulent ensemble, ça va bien. Quand il y en a qui dépensent que l'autre accumule, ça va moins bien. Fait que, tu sais, il y a de tout. Les relations de couple, tu sais, la relation avec l'argent dans le couple, je dirais, c'est teinté par les deux personnes, mais tu sais, c'est tout l'historique familial avec l'argent qu'on amène dans cette relation-là. Fait qu'il y a beaucoup plus que juste deux personnes dans le couple quand on parle d'argent. Il y a vraiment les deux parents à chaque côté, puis tu sais, toutes les générations passées, ce que chacun a vécu va venir impacter notre relation avec l'argent. La façon que, tu sais, la première fois qu'on a de l'argent de poche, nos premières expériences avec l'argent, premier chèque de paye, bien, la soeur, c'est plus des chèques, mais tu sais, première fois qu'on gagne de l'argent, qu'on a une paye, tout ça, on a teinté notre relation avec l'argent, puis on amène tout ça dans le couple après.
Ouais.
Fait que, puis après ça, bien, il y a la vision du couple. On enlève l'argent d'équation, il y a la vision du couple. Est-ce que, tu sais, monsieur, dans sa tête, qu'il va avoir une femme à la maison, puis que c'est lui le pourvoyeur, tu sais, ou est-ce que c'est l'égalité des sexes, ou est-ce que c'est quoi, tu sais. Là, il y a 10 000 partages, façon de voir ça. Fait que l'argent, si tu la rajoutes, ben, c'est comme l'huile sous le feu. Puis là, ben, tu sais. Mais en même temps, moi, j'ai toujours l'argent, c'est un amplificateur de tout. Donc, on peut vraiment savoir à qui on a affaire aussitôt qu'on sait comment que la personne gère l'argent.
Ouais, il y en a qui sont très chiches avec l'argent. Hein. C'est tout pour eux, rien pour toi.
Ben, c'est ça. Souvent, c'est des profils qui sont beaucoup plus insécures au départ, puis cette insécurité-là va mener leur vie carrément, puis ils vont s'empêcher eux-mêmes d'expérimenter puis de vivre des belles choses parce que, justement, ils veulent tout mettre de côté le plus possible. Ouais. Puis c'est fou, là. Il y en a qui peuvent vraiment couper solidement dans les dépenses pour ça, là.
OK. Mais est-ce que l'argent, la façon dont on la gère, est-ce que cet argent-là peut en dire long sur les valeurs qu'on peut avoir, sur les priorités dans la vie qu'on peut avoir? Ouais.
Ouais. Ben, c'est pas compliqué, la façon dont tu la gères, c'est la façon que tu vas te gérer le reste de ta vie. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des entrepreneurs, j'ai des couples, puis, tu sais, aussitôt que je sais leur personnalité financière, je peux exactement savoir ce qui se passe dans le couple, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Puis des fois, ben, je leur propose justement, quand ils sont en couple, de faire une séance ensemble. Et ben, je leur dis carrément des choses que ça fait 25 ans que madame a dit à monsieur telle affaire, mais là, c'est moi qui le dis, que ça passe mieux. Mais tout ça parce que je connais leur personnalité financière. Ils m'ont pas parlé de leur défi de couple. Je les sais justement, juste par leur personnalité financière.
Mais pourquoi on s'écoute pas entre conjoints et conjoints? Tu as dit quelque chose de très intéressant encore une fois. Pourquoi on s'écoute pas entre conjoints et conjoints? Pourquoi tu dis, moi, quand je leur dis, ils comprennent un peu plus le message. C'est-tu la relation de proximité qu'on peut avoir avec nos amis, avec notre conjointe, qui fait en sorte qu'on est comme toujours, on a comme toujours tendance à les remettre en doute quand ils nous disent quelque chose. Puis dès qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, ils nous disent cette affaire-là, puis ça nous rentre directement dedans. On dit, eh bien oui, t'as bien raison. Puis là, ta conjointe te regarde en disant, ouais, elle a bien raison, hein, mais moi, ça fait 3 ans que je te le dis.
C'est ça. Pourquoi? Écoute, la relation de proximité là, fait en sorte que ben on s'active nous-mêmes, nous, on pèse sur nos boutons nous autres-mêmes, là, de tout ce qui nous dérange. T'sais, on devient, t'sais, on a des certaines zones sensibles, donc plus on est proche de l'autre, plus c'est facile pour l'autre de stimuler, c'est de venir activer ces blessures-là, ces boutons-là, souvent qui viennent le plus loin dans l'enfance. C'est sûr que ça change la game versus quand on est devant un professionnel puis qu'il y a une expertise qui est là puis qu'on se fait dire la même chose. Puis tu sais, nul n'est prophète dans son pays. Fait que moi, je pense que des couples, on a besoin d'apprendre la communication. Puis c'est drôle, tu sais, tout le monde veut bien communiquer, tu sais. Dans mes bonnes années de célibat, je veux dire, le nombre de fois que j'ai vu dans les profils, ah, la communication, c'est important. Ouais, OK, on va voir ça, jusqu'où tu communiques, OK? T'sais, fait que dans le dire puis dans le faire, c'est deux. Il manque clairement de cours de communication dans les relations de couple, les relations humaines. T'sais, on n'a jamais été connectés autant, mais on n'a jamais su mal communiquer. Qui exprime clairement ses besoins? Okay? Qui est capable de dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est ça, ça, ça. Toi, c'est quoi tes besoins? Mettons ça sur la table, puis on voit comment on peut répondre à nos besoins mutuellement. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de dire leurs besoins, fait qu'ils ne demanderont même pas à l'autre c'est quoi. Puis quand t'es capable de les dire, puis il faut être aussi capable d'écouter ceux de l'autre. Fait que ça te prend aussi l'écoute de l'autre. Puis là, on rentre dans tout ce qui est intelligence émotionnelle ici. Puis ça, c'est quand même des nouvelles compétences, je te dirais, qu'on parlait pas, tu sais, quand on était jeune. On avait juste le QI, puis ça finissait là. Mais maintenant, ça prend beaucoup plus que ça si on veut être capable de rentrer en relation puis de rester en relation. Puis un couple, ben c'est un modèle vivant, tu sais. Puis on a tendance à vouloir que ça soit statique, deux personnes, on les plug là, si on est casé, parfait, c'est beau. Mais c'est pas ça la vraie vie, là. La vraie vie, c'est que le couple va être en évolution comme la vie au complet. Puis on a besoin de s'ajuster constamment, puis de toujours parler pour voir où on est rendu chacun. Sinon, c'est trop facile de se perdre de vue, puis finalement, l'écart se creuse. À un moment donné, tu fais, qu'est-ce qu'on fait ensemble finalement, tu sais?
Ben oui, effectivement. Je parlais avec Yvon Dallaire, qui est malheureusement décédé, qui est
oui,
un psychologue.
Je
puis,
sais, ouais,
un homme tout
ça.
À fait adorable. Puis
ouais,
il disait que la communication dans un couple, c'était hyper important, mais il y a des gens que ça fait 20 ans qui ont l'impression qu'ils communiquent bien. Puis du jour au lendemain, je leur fais faire un exercice, je leur dis « Écrivez-vous des lettres. » Fait que, genre de 30, 45 lignes, là, où vous parlez de la communication, où vous faites des communications avec votre conjoint, votre conjointe, puis où vous parlez de vos besoins, les choses que vous aimeriez faire et tout ça. Puis ils faisaient faire l'exercice, puis ils s'apercevaient que les gens avaient plus de facilité à communiquer à l'écrit leurs besoins parce qu'ils ne se faisaient pas couper par l'autre lorsqu'ils exprimaient leurs besoins. Et
ben
les
ouais.
couples évoluaient rapidement, la communication du moins évoluait très rapidement parce que les gens se disaient exactement ce qu'ils voulaient se dire mais sans gêne parce que c'était à l'écrit. Donc, ils se remettaient des lettres puis ils réussissaient à communiquer de cette façon-là puis la communication s'améliorait à ce que M. Dallaire nous mentionnait. Puis M. Dallaire, c'était un être formidable, mais il disait effectivement que l'argent, ça peut être un sujet assez particulier dans un couple. Puis de là, l'importance, comme tu le dis, Isabelle, d'avoir une excellente communication. Pas juste le dire, l'avoir, la communication.
Oui, oui, oui. Puis souvent, moi, c'est un sujet que... En dating, là, juste pour finir là-dessus, que j'ai abordé rapidement pour savoir à qui j'avais affaire. Puis il y a des conversations qui ont duré, des textos qui ont duré, tu sais, quelques minutes. J'ai convaincu, oh non, je m'embarque pas là-dedans. Juste parce que j'avais déjà une bonne idée de la personne par avoir entendu ses réponses par rapport à l'argent. De toute façon, juste, tu sais, pour moi, c'est inconcevable d'être avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'argent. Donc, si je dis le mot là, argent, puis l'autre a déjà peur, c'est comme OK, c'est fini. OK, parce que ben, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ce que j'enseigne, ça fait partie de mes conférences. J'ai une conférence qui est juste là-dessus. Donc, et ça me prend toujours bien quelqu'un qui partage ma vie, qui est bien à l'aise avec ça.
Exact.
Et qui est en paix avec ça et qui a compris qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Parce que le but, c'est à terre, on n'est pas là pour faire de l'argent. Là. On est là pour amener notre plus grande contribution au monde. Puis l'argent, c'est le plus grand levier qu'on peut avoir pour y arriver.
Ouais.
Donc, si l'argent sert à un objectif beaucoup plus noble que empocher et remplir son portefeuille, ben on est sur la bonne track.
Isabelle Lefebvre, j'ai une amie qui s'appelle Mélanie Trudel, qui a l'application Go See You. Puis j'avais des discussions avec elle une fois de temps en temps sur la différence homme-femme. Puis elle me mentionnait les critères que les hommes avaient la majorité du temps concernant la personne qu'ils voulaient rencontrer, puis versus ce que les femmes demandaient. Puis moi, ce qui m'avait marqué, c'est que pour un gars, qu'une fille gagne moins cher que lui, c'est pas très grave, mais en majorité, pour une femme, les demandes qui lui étaient faites, du moins à elle, c'était pas une étude scientifique, là, les demandes qui lui étaient faites, c'est si la dame recherchait un conjoint, exemple, la dame était médecin omnipraticien, faisait un genre de 300 000 par année, pour elle, dans ses valeurs à elle, c'est important que le gars soit capable d'accoter le 300 000 par année ou peut-être même gagner plus que ça. Tandis que les gars ne demandaient pas ça. Est-ce que c'est genré, la relation avec l'argent?
Ouais, je dirais pas que c'est genré.
Je te mets dans le trouble.
Non, on peut y aller. Je dirais pas que c'est genré, mais tu sais que maintenant, je suis obligée de faire attention, par exemple, à ce que je dis rapport à ça.
Okay.
Parce que, étant donné tous les nouveaux statuts qui existent, ça devient de plus en plus délicat. Mais au départ, tu sais, ce qu'il faut voir dans l'argent, c'est que biologiquement parlant, dans notre ADN, on était programmé. OK? Puis si on retourne à l'époque des mammouths, puis l'homme chassait le mammouth, puis la femme, elle restait dans la grotte pour s'occuper des enfants. Puis quand le mammouth allait arriver, c'est elle qui allait gérer, OK, les rations pour qu'on puisse manger jusqu'à temps que le prochain mammouth passe, puis que, tu sais, monsieur l'aille chasser. Donc, on part de biologiquement, l'homme est fait pour être le pourvoyeur puis protéger son clan, puis que la femme est faite pour gérer ce que monsieur va ramener. Si tu amènes ça maintenant, ben on change le mammouth pour l'argent, ben monsieur est biologiquement programmé pour faire de l'argent puis faire vivre sa famille, puis madame, elle s'occupe des enfants puis elle gère des sous. OK, puis une des choses qui est majeure, c'est que les hommes parlent de cash, d'argent, puis les femmes ne disent jamais ces mots-là. Les femmes parlent toujours de sous. J'ai pas assez de sous, mon chéri, je peux pas, tu sais. Fait que, on va, tu sais, tu vas magasiner avec les enfants. Non, maman, elle a pas de sous, maman, elle a pas de sous. C'est flagrant, c'est tout le temps ça. Donc, ça dénote juste déjà là quelque chose, OK? Et ça dénote toute la relation que les femmes vont entretenir avec l'argent, qui va être beaucoup plus laborieuse, je dirais, que les hommes, parce que biologiquement, vous avez été programmés pour faire de l'argent. Pas compliqué. Fait que vous êtes des pourvoyeurs de naissance. Et ça, c'est dans l'optique où est-ce que l'homme est dans l'énergie masculine et la femme dans l'énergie féminine, comme c'était dans l'ancien temps. Okay? Aujourd'hui, on a des hommes qui sont dans une énergie qui est plus féminine. Donc, ils vont avoir de la misère avec le mot cash et argent, puis qui vont être beaucoup plus dans l'énergie féminine, donc dans les sous. Souvent, ils vont avoir des professions beaucoup plus relations d'aide, massothérapeute, tu sais, ils vont se diriger plus vers ça. Puis, on a des femmes, comme la médecin que tu fais référence, des femmes de carrière qui ont une énergie beaucoup plus masculine, une drive, puis que eux autres, ça va bien, ils sont pourvoyeurs, ils peuvent pas être avec quelqu'un nécessairement trop féminin non plus parce que ils vont leur manger à laine sous le dos. OK? Fait que là, il y a toutes des dynamiques qui vont apparaître à partir de là, dépendamment d'on est-tu plus dans une énergie masculine ou féminine, puis comment on gère l'argent. Fait que, tu sais, c'est-tu genré? Ça commence à changer parce qu'il y a une question de on a le corps qu'on a, puis il y a une question qu'on est dans une énergie qui est peut-être différente. Alors qu'à l'époque du mammouth, la femme était femme, puis l'homme était homme, en dedans comme en dehors, il n'y avait pas de différence. Okay? Puis on était dans une question de survie à cette époque-là. Les gens n'avaient pas l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui, là.
Ouais.
Fait que, tu sais, mais inconsciemment, c'est quand même ce que les hommes portent et que les femmes portent encore de nos jours. Donc, après ça, qu'est-ce qui fait que les femmes vont vouloir quelqu'un qui va gagner quand même autant d'argent ou plus? Ça vient, on a des traces, on a encore des souvenirs de ça, là. Okay? Puis l'homme va toujours rester pourvoyeur, c'est dans son énergie masculine. Puis pour lui, un homme qui n'est pas capable de subvenir aux besoins de sa famille, automatiquement, il est en échec, puis il se sent impuissant. Puis son égo d'homme va en prendre tout un coup, fait qu'il ne voudra pas aller là. Okay, fait que lui, il va être content d'avoir une femme qui peut faire vivre puis qui va gagner moins d'argent que lui. C'est pas menaçant dans ce temps-là. Puis ça respecte aussi les rôles traditionnels sur lesquels on était conçus, là. Fait que, mais tu sais, on est dans d'autres sphères avec ce que je te dis
Ouais.
là.
Non, mais
Fait que...
j'adore cette discussion-là. Dans ton livre, Isabelle Lefebvre, Transformer votre relation avec l'argent, tu donnes 21 règles d'or pour accéder à la
Oui.
liberté financière. Toi, est-ce que tu as passé par cette étape-là? Parce que tu nous as parlé tantôt, tu étais à l'université, tu as appris que tu avais une maladie. Bon, nécessairement, te faire dire que tu vas finir dans une chaise roulante, ça a dû être un stress en te disant, hey, tabarouette, je vais être capable de bien gagner ma vie? Est-ce que je vais être capable de réaliser mes rêves? Est-ce que ton rapport avec l'argent, est-ce que ça a commencé à
Ah,
changer à partir de ce moment-là?
non, bien avant. Non, mais là,
Ouais.
j'étais d'intro dans le choc de la maladie pour. T'sais, là, je me demandais si je continuais ou si j'arrêtais ça là. Fait que, je n'étais pas en train de me demander comment j'allais me rendre à ma retraite.
Ouais.
Fait que, mais non, moi, c'est drôle parce que, de un, c'est ça, ma mère, quand elle a parti son magasin, tu sais, c'est un peu. Tu sais, moi, je viens de l'Abitibi. Là, je suis rendue dans Laurentides, mais j'ai passé comme 40 ans dans l'Abitibi. Puis, donc, son magasin, elle est partie en 1986, OK? Fait que c'est un genre de Rachel Berry ou Avril, si tu veux, de l'époque. À part ça, en Abitibi, full avant-gardiste, c'est comme 50 ans en avant de son temps, j'avais 10 ans. Fait que moi, j'ai commencé à travailler là à 10 ans, puis j'étais payée une pièce de l'heure. Puis là, c'est là que j'ai compris la valeur de l'argent, une pièce de l'heure, ça a commencé de même. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à l'argent. Puis là, elle dit, là, elle dit, à ce soir que tu gagnes de l'argent, elle dit, si tu veux du linge griffé, c'est toi qui le payes. Moi, je te paye comme la base de ce que ça vaut. Fait que tu payes pour, tu sais, le nom de plus. Fait que, ah, OK. Fait que, tu sais, ma relation avec l'argent, c'est là qu'elle a commencé. Puis à partir de là, là j'ai comme compris comment ça marchait. Puis je viens d'une famille où est-ce que j'ai beaucoup d'oncles et tantes qui sont dans toutes les strates, je te dirais, financières. Et donc, je me suis questionnée à l'âge adulte sur pourquoi, tu sais, j'ai trois oncles qui sont multimillionnaires puis qui ont de l'argent d'accumuler pour trois vies. Puis à l'autre extrême, tu sais, il y en a un qui a donné sa vie à Dieu, puis il y en a un qui s'en sortira jamais, puis que, tu sais, les deux extrêmes sont là. Fait que là, j'ai comme fait, tu sais, ils ont eu le même père, la même mère, c'est quoi l'affaire? Puis ça a été dans mes premiers questionnements. Puis après ça, mes parents, tu sais, ma mère était comme missionnaire en affaires, puis pour elle, c'était pas important de faire de l'argent, elle voulait aider le monde, être naturopathe, fait qu'elle était là pour, tu sais, le département des causes perdues, c'était elle, qui avait un problème de santé, qui savait pas quoi faire avec. Bon, je suis passée par le même département des causes perdues, mais il a fallu que je trouve ma propre solution.
Ouais.
Mais j'avais elle de ce côté-là, puis j'avais mon père de l'autre côté qui aidait des entreprises à relever de la faillite, puis qui était en difficulté financière, puis qui se faisait appeler Monsieur Cash. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, faut-tu que je choisisse entre aider le monde ou faire de l'argent? Puis ça a été comme un choix déchirant, puis ça m'a, tu sais, j'ai resté longtemps là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai compris que j'avais pas à choisir. C'est comme si je m'obligeais à choisir entre mes bras puis mes jambes, entre mes yeux puis mes oreilles. Tu sais, j'ai pas à choisir un ou l'autre. Finalement, les deux vont ensemble. Puis plus on fait d'argent, mais plus on peut aider le monde. Puis c'est ça qu'on a à faire sur Terre. On est là pour aider le monde, mais pas faire de l'argent. Parce que justement, quand on meurt, on part avec quoi? Le portefeuille, il va rester là. Tu sais, la sacoche, elle va rester sur la table. C'est fini, là. Mais avec quoi je vais repartir? Je vais repartir avec la fierté de ce que je vais avoir fait, de, tu sais, les legs que je vais avoir laissés. Puis, entre autres, mes livres, pourquoi je les ai écrits? Parce que je voulais que mes enfants aient un leg s'il m'arrivait quelque chose, puis je partais plus vite. Je me suis dit, ben, jamais qu'ils vont être pris, tu sais, à être dans le flou dans lequel j'ai été. J'ai comme 600 vidéos, 3 livres. J'ai comme, tu sais, j'ai tout produit pour que s'il m'arrivait de quoi, ça serait les premiers que je voudrais qu'ils restent alignés. Puis je me suis dit, ils vont trouver toutes les réponses à leurs questions s'ils lisent tout ça, puis écoutent tout ça. Fait que, tu sais, ça pour moi, c'est là qu'on rentre dans aider les autres, puis faire une différence. Puis pour moi, le plus important, c'est de dire, hey, on est mort, puis on fait encore une différence. Ça, je suis comme, wow, OK, le leg, tu sais, est de valeur inestimable rendu là. Puis je me souhaite à tout le monde de léguer quelque chose d'aussi grand que ça, là.
Ben oui, laisser ta trace. En même temps, tu viens de me
Ouais.
donner du stress, là. Je me suis dit, vas-tu laisser de quoi, moi, à mes enfants? Tu viens de me stresser, là, Isabelle. Je
Ben,
pensais pas que tu allais me stresser de même.
tu feras tes examens de conscience, mais tu sais que ta participation à la radio a sûrement beaucoup plus d'impact que tu peux penser parce que tu sais, tu deviens une source d'inspiration. Il y a des gens que tu dois changer leur vie, qu'ils t'écoutent à tous les jours, puis qu'ils apprennent des choses grâce à toi. Puis tu as déjà une contribution qui se fait à ce niveau-là. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est souvent on s'en rend pas compte, OK, de l'impact qu'on a, puis on a un impact beaucoup plus grand, puis on n'a pas besoin de faire des affaires grandioses. Pas besoin de tout le monde d'écrire des livres pour que ça soit ça. Tu sais, on a chacun une contribution à faire. Peu importe si ça se fait plus dans l'anonymat ou ça se fait plus au public puis est plus reconnu. L'important, c'est de faire ce pourquoi on est destiné, tu sais. Puis
Effectivement.
on est un exemple pour nos enfants aussi. Fait que dis-toi que le plus bel héritage que tu donnes, c'est l'exemple que tu as tous les jours. C'est ça qui fait une
On
différence.
essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis il faut s'améliorer.
C'est ça.
IsabelleLefebvre.com, elle est coach, elle est aussi auteure. Vous pouvez aller sur son site internet, elle va rester avec nous encore pendant quelques minutes. Je dois. Ce soir, j'ai le plaisir de discuter avec Isabelle Lefebvre. Elle est coach, elle est aussi auteure de plusieurs livres. On a commencé en début d'émission à parler du parcours d'Isabelle Lefebvre. On a parlé aussi de son livre « Transformer votre relation avec l'argent ». Elle donne 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Et là, je voulais parler avec toi, Isabelle, si tu le veux bien, de ton, je ne sais pas si c'est ton dernier. C'est le livre C'est quoi ton plan? Réussissez tout ce que vous entreprenez. Est-ce que ça prend absolument un plan, Isabelle? Parce qu'il y a des gens qui, tout au long de leur parcours sur Terre, disons ça ainsi, ils auront toujours un plan, toujours les choses faites d'avance avec des étapes, des chapitres et tout ça. Puis il y en a d'autres qui sont au jour le jour. Je vais me dévoiler devant toi. Je fais partie de la pérasse au jour le jour, ce qui peut être un peu tannant là, des fois pour les gens qui partagent ma vie. Mais j'aime bien, moi, m'entourer de gens qui ont constamment des plans. Fait que quand je vais en voyage, ben là, j'ai pas de problème parce que j'ai quelqu'un qui a un plan. Donc, je suis son plan puis ça va
C'est
bien.
ça, c'est
Mais
bon.
est-ce que ça l'aide pour quelqu'un, pour une femme d'affaires ou un homme d'affaires ou quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose de, entre guillemets, grandiose, d'avoir un plan, c'est pas mal la base, là.
Ben, pour tout, pour moi, là, tu sais, c'est peu importe l'objectif qu'on se fixe, ça prend un plan. Est-ce que le plan, puis, tu sais, la résistance au plan que beaucoup de gens vont avoir, c'est qu'ils voient le plan comme si, tu sais, c'est coulé dans le béton. Puis là, il faut suivre ça, là, tu sais, comme une recette, là, faut que je fasse absolument toutes les étapes du gâteau dans l'ordre, sinon il ne lèvera pas. Mais c'est pas ça, là, dans notre cas, là. C'est un plan qui est adaptable, qui va être agile, qui va être modulable selon toutes les situations de la vie qui vont arriver. Sauf que ce que ça fait, c'est que ça nous donne une direction. Tu sais, c'est le même principe que, tu sais, tu veux partir avec ton char du point A au point B, là. Bon, mais ça se peut que tu pognes, tu sais, du trafic, de la construction, des cônes, tu sais, ça se peut. Tu sais, fait que là, tu vas te rendre à destination pareille. Mais au moins, tu avais un plan. Tu sais, le GPS, c'était clair où ce qu'il s'en allait. Il va t'avoir fait dévier parce qu'il a vu les obstacles sur le chemin, mais tu vas te rendre. Puis l'idée, c'est de ne pas perdre de vue où tu t'en vas. Puis plus l'objectif est audacieux, ben plus tu as besoin d'être prêt. Tu sais, monter l'Everest, là, puis tu sais, te rendre au bord de la rue, c'est comme. C'est pas la même envergure, là. Fait que, tu sais, t'as besoin de savoir où tu t'en vas, t'as besoin de voir, t'as-tu tout ce qu'il faut, tu sais, t'as-tu toutes les compétences pour te rendre à cet objectif-là? Tu sais, est-ce que t'as le bon mindset pour te rendre là? T'as-tu des bonnes, les stratégies qui sont alignées avec ton objectif? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui doivent être pensées pour pouvoir atteindre l'objectif. Puis, trouver la motivation, ben, quand on a un plan, c'est beaucoup plus motivant que quand on s'en va à tâtons puis qu'on fait juste des essais-erreurs. Tu sais, ça donne souvent pas grand-chose. On se décourage, on arrête, puis on dit, ben, il n'y a rien qui marche. Ouais, mais il n'y a rien qui marche parce que si tu n'as pas le bon plan avec le bon coach, là, ben, tu sais, c'est comme, tu te mets des conditions gagnantes. Tu vas aller aux Olympiques, tu sais, le meilleur exemple, c'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui va aux Olympiques, pas de coach, puis pas de plan, puis qui va gagner la médaille d'or? Non, mais ben, on est à la même place. Fait que, tu sais, ce qu'on voit pour les Olympiques, c'est exactement ce qu'on transfère dans toutes les autres sphères de la vie. Puis tu te dis, c'est là que tu veux t'en aller, parfait. Moi, je suis toujours dans qui est la meilleure personne pour m'amener là. Puis moi, c'est qui est la meilleure personne sur la planète. C'est vraiment mon range, c'est la planète au complet. Je dis, qui l'a déjà fait, puis que ça fit avec moi, puis que c'est vers là que je veux m'en aller. Parfait, c'est avec cette personne-là que je veux travailler.
Tu
OK? Parce
détermines
que
ça?
le.
Tu détermines ça comment? Tu te mets une cible, tu dis c'est là que je veux aller ou c'est ça
Ouais.
que je veux faire, puis après ça, ben tu y vas étape par étape.
Ben, c'est pas mal, écoute, je te dirais, c'est pas mal le contenu justement du livre, c'est quoi ton plan? C'est que, tu sais, dans le fond, j'ai 7 piliers à mettre en place pour me rendre là. Moi, mon image, c'est de monter la montagne. OK? C'est toujours ça. Fait que, tu sais, l'image qu'on peut avoir en tête, c'est ça. Je l'ai bâti la pyramide stratégique parce que les gens, dans le fond, me demandaient comment je fais pour vivre toutes les transformations que j'ai vécues dans ma vie. Parce que, tu sais, on a parlé de la maladie, mais tu sais, à un moment donné, j'avais un surplus de poids, j'ai décidé de maigrir. Puis quand j'ai passé à l'action, ben, j'ai maigri 80 livres. OK? Ça a passé au cash, c'était fini. Tu sais, ben, j'avais vraiment un plan béton qui a marché. Puis lui, lui, je ne pouvais pas déroger. Tu sais, il fallait que je le suive à la lettre, mais ça a fonctionné. Mais tu sais, toutes les transformations que j'ai vécues, les gens me disaient, comment tu fais ça? Puis, tu sais, mon processus, à la base, il est full intuitif. Puis, je l'ai fait, moi, l'essai-erreur tout le temps, là. Puis, je me suis dit, OK, il faut que je réussisse à rendre mon processus comme facile à comprendre pour tout le monde. Puis, ça l'a donné, ce livre-là. Donc, le premier pilier, ben, c'est l'alignement. On ne s'en sort pas. Fait que, est-ce que je suis aligné avec l'objectif que je veux atteindre? Est-ce que, tu sais, vraiment, ça fit avec moi? Ou, tu sais, des fois, il y en a qui disent, moi, je voudrais faire telle carrière, puis là, je suis comme, moi, ouais, mais tu sais, ça fit pas avec toi. Pourquoi tu veux faire ça? Ben, tout le monde le fait. Là, je suis comme, OK, mais c'est pas une bonne raison. Ça marche pas. Ça fait même pas avec tes passions. Ça fit pas avec toi. Fait qu'on oublie ça. Fait que, tu sais, de un, est-ce que c'est aligné avec moi? De deux, est-ce que j'ai toutes les compétences nécessaires? Est-ce que, tu sais, il faut que je me développe? J'ai-tu tout le savoir-faire? J'ai-tu, tu sais, le savoir-être? Tu sais, c'est comme vouloir une promotion au travail. Ouais, mais tu sais, je sais pas, tu veux devenir gestionnaire. Ouais, mais t'as-tu des expériences en gestion? T'as-tu des cours en gestion? T'as-tu déjà géré du monde? Sinon, il faut toujours bien que tu développes ça, tu sais. Fait que, ou, un autre exemple, en couple, je vais attirer l'homme de ma vie, la femme de ma vie. OK, fais ta liste, puis après ça, regarde ta liste, puis es-tu capable d'offrir tout ce que tu demandes? Si t'es pas capable d'offrir tout ce que tu as sur ta liste, va faire tes devoirs. T'es juste sur le deuxième pilier de développer tes compétences dans tout ce que tu demandes. Puis, tu sais, les gens sont vraiment exigeants dans leurs demandes, mais souvent ne sont pas capables de dire, ouais, moi, c'est tout ce que j'ai à offrir, c'est là.
Juste l'étape de se mettre en mouvement, Isabelle, je ne sais pas si tu parles de ça dans ce livre-là,
Ouais,
mais
ben oui, oui.
ayant animé une tribune libre le soir, il y a des gens qui m'appelaient et me confiaient plein de choses, dont une dame que je me souviendrai toujours de la discussion que j'ai eue avec elle. C'était ça. Elle recherchait l'homme de sa vie. Puis je disais, OK, mais ça fait combien de temps que tu recherches l'homme de ta vie? Ben, j'ai toujours été célibataire, là, depuis, je te dirais, depuis 25 ans à peu près. Je recherche l'homme de ma vie. Ça fonctionne pas. J'approche la cinquantaine. Je trouve ça plate. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais pour rencontrer l'homme de ta vie? Ben, je fais rien, je ne sais pas quoi faire, mais je veux le rencontrer. Oui, mais il ne viendra pas cogner à ta porte. Tu sais, quand tu es
Exactement.
à l'épicerie, est-ce que tu regardes à terre ou ben tu regardes les gens qui sont autour? Est-ce que tu crées des contacts, yeux dans les yeux avec des individus? Tu sais, est-ce que tu es sur des sites de rencontres? Est-ce que tu es sur Tinder ou tu es sur des sites peut-être un peu plus sérieux? Est-ce que tu te mets en mouvement? Puis ce qu'on déterminait à ce moment-là, c'est qu'elle n'était pas capable de se mettre en mouvement. Elle avait plein de désirs, mais t'es
Ouais.
pas capable de se mettre en mouvement pour accéder à ça. T'es pas capable de faire les premiers gestes.
Ben, tu vois, ben là, ça, c'est que justement, c'est le fun d'arriver à cet exemple-là, drette là, parce que le troisième pilier, c'est le mindset. OK? Donc, le mindset n'était pas là. Puis ça, c'est la même chose pour n'importe quel objectif, là. Quand le mindset n'est pas là, tu sais, mettons, tu es en affaires, puis tu as besoin tu veux vendre tes services et tout, ben, c'est parce que si tu n'as pas le bon mindset, tu seras pas capable d'approcher les gens, tu sais. Fait que c'est la même affaire. Puis là, c'est les peurs qui embarquent. Qu'est-ce que l'autre va dire si je l'approche? Puis là, tu sais, j'ai peur de me faire dire non. Puis là, il y a le hamster se met à rouler. Puis là, il y a comme plein de. Tu sais, c'est toutes les peurs tu sais, la peur, souvent, les gens, la peur de revivre la même chose qu'ils ont déjà vécu. Fait que là, ils veulent éviter ça. Fait que finalement, reste chez vous, assis sur ton divan, puis il se passera rien. Tu vas tout éviter. Puis tu vas tellement tout éviter que tu vas passer à côté de ta vie, tu sais. Fait que ce mindset-là va être vraiment important. Puis un coup que tu as le bon mindset, tu sais, c'est comme les trois piliers que je viens de dire, là, tu es aligné, tu as développé tes compétences, puis tu as le bon mindset, c'est comme ta fondation. Puis quand tu as ça, là, tu arrives à la visibilité, qui est le quatrième pilier. Fait que là, c'est là où est-ce que tu t'en vas partout, ces sites de rencontres, là, tu vas être visible partout. Ou tu sais, tu cherches une job, ben là, c'est comme let's go, là, tu pitches tes CV partout. Puis où tu veux des clients, ben là, tu sais, tu es en grosse visibilité promotionnelle pour avoir tes clients. Puis là, tu sais, c'est comme tu ouvres toutes les portes, tu envoies toutes tes lignes à pêche, puis là, après ça, là, le poisson va pogner. Fait que là, tu te retrouves au cinquième pilier qui est la gestion. Là, il va falloir que tu gères tout ce que tu as, tu sais, tous les poissons, toutes tes lignes, il va falloir que tu les gères. Fait que là, c'est comme toutes les demandes que tu reçois, tu sais, sur les sites de rencontres. Après ça, toutes les offres pour les entrevues. Après ça, tous les clients qui arrivent, il va falloir que tu gères tout ça. Fait que là, tu deviens un certain maître dans la gestion, si t'as pas abandonné avant, parce que tu sais, il y en a qui ça devient tellement gros qu'ils disent je suis pas capable de gérer ça, fait qu'ils vont tout saboter. Mais si tu es capable de gérer ça, ben après ça, tu vas être capable de libérer du temps puis dire OK, ben là, oui, je vais aller rencontrer telle personne, je sens vraiment qu'il y a un fit avec cette personne-là, il faut que je la rencontre, ou je vais aller passer telle entrevue, ça, je sens vraiment que ça marche. Mais tu sais, faut vraiment se rendre visible. Puis après ça, il faut gérer ce qu'on a créé, finalement. Puis là, on est capable de finir de monter dans la pyramide avec vraiment le sixième pilier qui est la contribution. Donc, comme à moi, je peux contribuer, tu sais, soit au premier client, soit à partir, tu sais, auprès de l'homme ou de la femme qu'on rencontre, du partenaire. Puis c'est là qu'on arrive en haut de la pyramide avec la réalisation de l'objectif. Puis c'est une réalisation de l'objectif, c'est une réalisation de soi, c'est un dépassement de soi. Puis après ça, on fait juste, OK, what's next? Et où le prochain? Et où la prochaine pyramide stratégique? Tu sais, parce que c'est là qu'on rentre dans. C'est tellement le fun d'atteindre nos objectifs, puis de voir que ça marche, que tu sais, tu as envie de te dépasser, puis de passer à un autre niveau. Puis là, ben, c'est comme bienvenue dans l'expansion, là. C'est la façon que moi je vis, puis que tout se passe dans ma vie, là.
C'est pas grave de l'essayer des fois, puis avoir un constat où on
Ouais,
doit
non, mais tu
abandonner, mais
sais.
l'important c'est de pas abandonner puis se remettre en mouvement à un moment donné, mais il faut être déterminé pour le faire. T'sais. Puis
Ouais.
il y a un mème qui circule sur Internet, je sais pas si tu l'as vu passer, mais c'est deux chercheurs de trésors. Puis on
OK.
voit vraiment le trésor qui est au fond, dans le sol, qui est peut-être à 5 mètres, mettons, du
Oui,
sol.
oui,
Puis
oui.
les deux creusent, mais il y en a un qui abandonne, puis il est à même pas 1 mètre du
Ouais, oui.
trésor. Puis il y a l'autre qui va prendre des pauses, il redescend, il va prendre des pauses, il redescend. Puis lui, il continue de creuser jusqu'au trésor. Lui qui a abandonné parce qu'il était plus capable, puis il disait, il n'y a pas de trésor ici. Il a juste essayé une fois, tandis que l'autre, il a
C'est ça.
essayé plusieurs fois. Combien d'exemples d'hommes et de femmes d'affaires qui ont de grandes entreprises aujourd'hui, qu'on regarde un peu leur parcours, puis ils ont des échecs à n'en plus finir. Ils ont plus d'échecs que toi. Le problème, c'est qu'ils ont plus de réussites que d'échecs, puis aujourd'hui, ils
Ouais.
réussissent très bien. Les gens ont peur de l'échec, les gens ont peur de se faire dire non. Je parlais avec un courtier immobilier il y a de ça quelques semaines, puis il me disait que la chose qu'il déteste le plus, lui, dans son travail, c'est de se faire dire non quand il fait du cold call. Ça, là, c'est qu'il appelle des clients qui
Ouais.
sont sur du proprio, là, puis là, il offre ses services de courtier. Puis lui, il déteste faire du téléphone parce qu'il a peur de se faire dire non. Puis là, je disais, OK, mais le pire que tu peux te faire dire, c'est quoi? Ben, il dit, c'est non.
Ben, c'est
OK,
ça.
mais après ça, tu passes au
C'est
prochain.
tout. C'est ça.
T'sais, tant que tu restes poli, puis tu dis, regardez, s'il y a quoi que ce soit qui change dans votre décision, vous pouvez me rappeler. Tu restes poli, puis tu passes au prochain. Il y a d'autres courtiers qui sont capables de faire 200 appels par jour, de se faire dire non 199 fois. Puis ils ont 4-5 messages ils ont 4-5 rendez-vous par semaine. Puis lui qui a peur de se faire dire non, ben il n'y en a pas de rendez-vous dans la semaine.
Ben, tu sais, la différence entre celui-là qui est focusé sur la peur du non, il voit juste les non. L'autre, son mindset, il est sur combien de oui je vais avoir. Lui, il est challengé sur le nombre de oui. Fait que lui, il fait l'appel dans un but d'avoir un oui, pas dans la peur, tu sais, de se faire dire non. Fait que lui, son fun, c'est de voir à la fin de la journée, il a eu combien de oui, à la fin de la semaine, à la fin du mois, puis là, il va comparer ses années. Tu sais, fait que dans la tête de quelqu'un qui a un mindset comme vraiment au top, là, avec cet exemple-là, ben c'est quelqu'un qui, tu sais, qui, dans sa tête, l'échec n'existe pas. Moi, l'échec n'existe pas dans ma tête. Je suis juste comme, OK, ben là, présentement, ça marche pas. Il y a un défi qui est là, on le relève, puis on continue. Mais l'échec n'existe pas. Fait que, tu sais, c'est ça aussi la différence. Si, dans ta tête, les erreurs puis les échecs existent, ben c'est sûr que c'est plus facile d'abandonner. Si c'est juste comme, OK, le chemin est plus long qu'on pensait, ben on est encore dans la course, puis on continue, là.
Ouais, pis,
fait que, tu sais, ça fait une grosse différence, là.
Les fameux « oui, mais », ils m'avaient dit, « Ouais, mais Yann, quand tu fais des cold calls, il y a juste 1% de réussite. Mais so what? Appelle-en 100, tu vas avoir un rendez-vous. »
C'est ça. T'es pas sûr d'appeler les 99, le centième, t'es sûr que t'as un oui,
Appelle-en 200, tu vas avoir deux rendez-vous, puis deux rendez-vous, ben c'est deux clients qui peuvent vendre leur maison avec tes services. Mais, tu l'as dit, faut que tu sois aligné avec dans vie, puis soit aligné avec ton travail et tout ça, puis certains sont peut-être pas nécessairement dans le bon métier. Tu fais du coaching, tu fais aussi des conférences, de ce que je comprends, pour une entreprise, exemple, qui voudrait avoir Isabelle Lefebvre. Les services que tu offres dans tes conférences, c'est quoi exactement?
Ben écoute, je te dirais que ce qui est le plus demandé, c'est vraiment au niveau de la relation avec l'argent. Donc, c'est vraiment une conférence dans laquelle les gens vont ressortir avec beaucoup de prise de conscience. C'est autant... À quelque part, je me suis trouvé une fibre humoristique. Je me suis découvert une fibre humoristique. Autant comique, autant qu'on va vraiment dans du plus profond, où est-ce que les gens ressortent vraiment avec des prises de conscience, des inspirations. Puis ce que je souhaite, c'est vraiment qu'il y ait déjà des changements de fait au niveau de la relation avec l'argent. J'explique les personnalités financières, fait que les gens se reconnaissent. Quand les gens se connaissent dans la salle, ça peut vraiment donner lieu à des moments cocasses parce que les gens vont se taguer eux-mêmes. Et ça m'est déjà arrivé où est-ce que je connaissais des gens dans la salle qui étaient en train de se taguer. Ça a donné lieu à des échanges assez drôles. Donc, ça, c'est vraiment, je te dirais, ce qui est le plus fun, autant pour moi que pour les gens, là.
Donc, Isabelle Lefebvre fait du coaching d'affaires, coaching de gestion. Tu fais des formations aussi, puis des conférences. Écoute, quand tu seras de passage à Québec, tu viendras faire un tour en studio dans l'émission du midi. Est-ce que, on t'a dit tout à l'heure que tu étais dans les Laurentides. Tu peux faire ça à distance, j'imagine?
Oui, écoute, je suis en affaires depuis 2012, j'étais en Abitibi à ce moment-là, puis l'objectif, c'était d'avoir une entreprise qui n'aurait aucune limite. Alors moi, je suis en ligne depuis 2012, bien avant que tout le monde embarque, et les gens se demandaient pourquoi je coachais juste en ligne. J'avais des gens qui étaient dans ma ville, puis qui me disaient « Oui, mais je peux aller chez vous ». Non, je ne suis pas organisée pour ça. J'ai un modèle d'affaires international. Je suis en ligne. Donc, tu vas te plugger en ligne comme tout le monde à la bonne heure, puis ça va être ça. Tout se fait en ligne. Fait que c'est pas un problème, peu importe où les gens sont sur la planète. Même des fois, on change de créneau horaire et puis tout est beau aussi. Fait que ça arrive, j'en ai en France, j'en ai eu dans l'île de Réunion, j'en ai eu à différents endroits. Donc,
Tant qu'il y a de l'électricité et de l'Internet... Isabelle Lefebvre est là.
C'est ça qui nous sauve.
Ça a été un plaisir de discuter avec toi, Isabelle.
Ben moi aussi.
Ça a été une belle rencontre.
C'est vraiment un bon moment. Merci pour l'invitation.
L'offre est valide. Si tu repasses à Québec pour des conférences, tu peux venir faire un tour. On se trouvera un sujet à jaser. Anyway, tu as de la parlotte. C'est le fun. On placote.
Ben oui, on peut être longtemps.
On manquera pas de sujet. Merci beaucoup.
Merci à toi. Bye-bye.
C'était Isabelle Lefebvre qui est coach, qui est aussi auteur. Trois livres super intéressants. Vous pouvez aller voir sur son site internet sans problème, là, isabellelefebvre.com pour plus de détails. Moi, je vous souhaite de passer une super belle soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. On se reparle demain, 11h, pour ce